VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 21 octobre 2016. Eric Manilakiza et Nathalie Barge avec vous au sommaire ce soir.
Nouvelle tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso.
Il sort que les quatre suspects sont un groupe de militaires de l'ex-RSP dont trois sont des déserteurs recherchés et qui revenaient d'un pays voisin pour participer à une action d'atteinte à la sûreté de l'État.
Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré.
L'Afrique du Sud se retire de l'accord pénal international.
Interpellation de 12 militants de la Lucha ce vendredi à Kinshasa.
Mohamed Ould Abdelaziz affirmait que la limitation des mandats présidentiels leur resterait inchangée en Mauritanie.
Attaque d'un canot de migrants au large de la Libye. Au moins 4 morts et plus de 15 disparus.
Avant l'économie et les sports, voici d'abord le journal.
Nouvelle tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso. Selon le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, un groupe d'environ 30 hommes composé de sous-officiers militaires du rang de l'ex-RSP projetait d'attaquer la présidence à Kossiam pour prendre le pouvoir par les armes, a déclaré le ministre. L'adjudant-chef Gaston Koulibaly, le sergent Khalifa Zerbo et le soldat de première classe Issaka Yelemou sont les auteurs de cette tentative, a-t-il déclaré, ajoutant que le premier était activement recherché. 10 soldats ont été déférés au parquet militaire de Ouagadougou et une vingtaine sont encore en garde à vue. Nous reviendrons sur cette affaire dans les magazines avec notre correspondant à Ouagadougou.
Et l'Afrique du Sud a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale après la polémique causée par son refus d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir. Le point avec Nanit Talani.
Conformément à la procédure, Pretoria a annoncé par écrit au secrétaire général de l'ONU son retrait de la CPI, a déclaré le ministre sud-africain de la Justice, Michael Masuta. La décision prendra effet dans un an à compter de la date de réception de la lettre adressée hier aux Nations Unies. L'Afrique du Sud accuse la CPI de préférer de toute évidence viser des dirigeants en Afrique et exclure les autres qui sont connus pour avoir commis ces atrocités ailleurs. L'Union africaine, elle, estime que cette cour se livre à une sorte de chasse raciale. Depuis son entrée en fonction en 2003, la CPI a déjà ouvert 10 enquêtes dans 9 pays, dont 8 africains. Depuis plus d'un an, l'Afrique du Sud menaçait de dénoncer le traité de Rome, fondateur de cette cour, après avoir refusé l'année dernière d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir, recherché par la CPI. Les organismes de défense des droits de l'homme crient leur indignation et craignent que l'Afrique du Sud et le Burundi deviennent des exemples pour d'autres pays africains.
Plus de 10 militants de la Lucha ont été interpellés ce vendredi à Kinshasa alors qu'ils tentaient de déposer un mémorandum au siège de l'Union africaine. Des précisions de Walter Nkouyi de Top Congo FM, notre radio partenaire.
C'est un total de 12 militants du mouvement citoyen Lucha, lutte pour les changements, qui ont été appréhendés par les éléments de la police. À l'origine, les activistes s'étaient rendus au siège de l'Union africaine à Kinshasa aux environs de la mi-journée pour déposer un mémorandum. Dans ce document que nous avons pu consulter, la Lucha dit rejeter l'accord politique issu du dernier dialogue national en RDC. Elle demande à l'Union africaine de jouer franc jeu et œuvrer pour le dénouement pacifique en RDC, la tenue des élections selon la Constitution, le transfert pacifique du pouvoir et l'alternance en RDC. Bienvenue Matoumou et Soraya Aziz, deux membres de la Lucha que nous avons joints, ont indiqué avoir informé l'autorité municipale. Il ne s'agissait pas d'une marche, indique-t-il, juste du dépôt du mémorandum. Le document n'a pas été déposé et les militants ont été dispersés. La Lucha devrait aussi organiser un point de presse. Cela n'a pas été faisable. Interrogé par Top Congo FM, des sources proches de la police indiquent avoir dispersé ces activistes et procéder aux interpellations de certains pour mettre en application la décision du gouverneur de la ville qui interdit toute manifestation à caractère politique sur l'ensemble de la ville jusqu'à nouvel ordre. Leurs avocats indiquent que les démarches sont en cours pour que leurs clients soient libérés. Kinshasa, Walter Kouy de Top Congo pour VOA Afrique.
L'ONU dénonce les restrictions imposées par Kinshasa à son enquête sur les violences qui ont fait 53 morts lors des manifestations en septembre. D'après le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, en RDC, ses équipes se sont vues refuser l'accès à des centres de détention et au registre de certaines morgues et hôpitaux. Dans ce rapport préliminaire publié aujourd'hui, l'ONU dénonce un usage disproportionné excessif de la force, y compris létale, contre les manifestants.
Deux quotidiens ivoiriens pro Gbagbo, La Voix originale et Aujourd'hui, ont été suspendus jusqu'au 7 novembre par le Conseil national de la presse. Cette sanction survient à la veille de l'ouverture de la campagne pour le référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Le CNP reproche à Aujourd'hui de diffuser de fausses informations et La Voix originale a été sanctionnée pour avoir attribué à Abdourahmane Sangaré le titre de président intérimaire du Front populaire ivoirien.
Des morts et plusieurs blessés dans un accident de train au Cameroun qui a déraillé au niveau de la gare d'Esseka. Dans le même temps, le trafic routier a été totalement arrêté entre Yaoundé et Douala à cause de l'effondrement d'un pont après de fortes pluies. John Lyndon a joint Christophe Bobiokono, directeur de publication de l'hebdomadaire Kalara.
Le train qui partait de Yaoundé aujourd'hui à 9h30 pour Douala a eu un problème dans la localité des Eka et il y a eu déraillement. Plusieurs wagons, environ 8, sont renversés. Il y a eu des blessés graves, des blessés légers et puis des morts. Selon quelques sources judiciaires, on dénombrait à peu près 24 morts. C'est une zone, on peut dire, relativement enclavée. Donc ce sont les autorités locales qui se sont mobilisées. D'abord pour essayer de transporter les blessés vers les centres hospitaliers voisins et transporter aussi les morts vers les morgues voisines. Pour le moment, je crois que c'est un peu la panique. Mais on vient d'apprendre que... Au niveau central de l'État, on prend des dispositions pour rétablir d'abord la route entre Yaoundé et Douala et assurer en même temps des secours qui doivent regagner soit Douala, soit Yaoundé où il y a des hôpitaux de référence pour les blessés graves.
Au large de la Libye, des hommes à bord d'un navire, des gardes-côtes libyens ont attaqué à coups de bâton des migrants dans un canot en pleine nuit sous les yeux de secouristes allemands qui ont pu sauver 120 des quelques 150 personnes à bord. Salwa Jafari nous en dit plus.
Dans la nuit, un navire de l'ONG allemande Sea-Watch a été envoyé par les gardes-côtes italiens qui coordonnent les opérations dans la zone au secours d'un canot pneumatique surchargé. Les secouristes de Sea-Watch ont alors mis leurs deux embarcations à l'eau pour commencer à distribuer les gilets de sauvetage aux migrants, estimés à environ 150. Mais des hommes apparemment armés sont alors arrivés sur un bateau portant l'insigne des gardes-côtes libyens. Très nerveux, ne parlant qu'arabe, ils s'en sont pris aux migrants et ont essayé de voler le moteur de leur canot. Frappant les migrants à coups de bâton, certains ont sauté à bord, provoquant un mouvement de panique. Les équipes de Sea-Watch ont réussi à secourir 120 personnes et à récupérer 4 corps, mais ils ont vu flotter des corps qu'ils n'ont pas pu récupérer et estiment qu'entre 15 et 25 personnes ont disparu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, en Irak, des djihadistes du groupe État islamique ont attaqué aujourd'hui la ville irakienne de Kirkouk dans une apparente tentative de diversion. Au cinquième jour de l'offensive appuyée par la coalition internationale, les forces irakiennes et des combattants kurdes continuent de progresser vers Mossoul, bastion des djihadistes.
Les États-Unis et la Turquie ont convenu d'infliger une défaite durable au groupe État islamique. Ashton Carter, secrétaire américain à la Défense en visite à Ankara, a précisé que les deux alliés vont maintenir une étroite coordination.
La Russie a de nouveau accusé des djihadistes de l'ex-front Al-Nusra et ses partisans de miner les efforts de l'ONU pour organiser l'acheminement de l'aide humanitaire à Alep. Moscou est aussi très préoccupée par le refus des djihadistes de quitter la ville syrienne d'Alep.
En France, les policiers en colère obtiennent des gages dans leur rencontre avec le président François Hollande, mais maintiennent la pression. Les policiers réclament plus de moyens. Ils dénoncent leurs voitures en ruine, le manque d'effectifs, les gilets pare-balles hors d'âge. Ils soulignent aussi la forte pression depuis les attentats djihadistes.
En Italie, plusieurs centaines de musulmans ont organisé aujourd'hui une grande prière devant le Colisée à Rome. Ils protestaient contre la fermeture récente de 5 lieux de culte dans la capitale italienne. Les communautés religieuses autres que catholiques disent avoir du mal à se faire entendre.
Le sultanat d'Oman a fermement démenti aujourd'hui que des armes étaient acheminées en contrebande aux rebelles chiites houthis via sa longue frontière avec le Yémen.
Chinois et Philippins se sont engagés aujourd'hui à privilégier le dialogue pour régler leurs différends sur la souveraineté de la mer de Chine méridionale. Le président Rodrigo Duterte a opéré hier un revirement spectaculaire de la diplomatie de son pays qui l'éloigne des États-Unis au profit de la Chine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec John Lyndon.
La principale compagnie aérienne du Nigeria envoie de nouveaux investisseurs privés, puis envisage une introduction en bourse à Lagos et à Londres en 2017. Cet appel au financement extérieur permettra à Arik Air de compenser le ralentissement économique qui frappe durement le Nigeria. Avec la dévaluation du Naira, le principal transporteur aérien du Nigeria souhaite à la fois s'ouvrir à l'international et atténuer l'impact de la récession qui frappe le pays depuis le 1er septembre 2016. En Côte d'Ivoire, la bouteille de gaz butane en alliage en fibre de fer introduite par la SAFIR, la Société africaine de pétrole et d'hydrocarbures raffinés, a lancé hier son centre remplisseur ultra moderne, la toute première unité opérationnelle de la nouvelle zone industrielle du PK24 à Abidjan. D'une capacité de 2500 bouteilles par jour, l'unité entièrement automatisée permettra de fournir le marché ivoirien en gaz domestique. La Banque européenne d'investissement s'installe au Cameroun selon le Financial Afrique, la BEI, dont l'activité est axée à plus de 90% sur l'Europe, a ouvert un bureau régional à Yaoundé. Cette représentation permettra à l'institution financière de renforcer l'appui européen aux grands projets d'investissement, aussi bien au Cameroun que dans la région Afrique centrale.
Le moment des sports aujourd'hui avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric.
On va commencer par le Mondial 2018. La mascotte sera dévoilée cette nuit en Russie.
Ce sera à l'issue d'un vote d'un mois auquel ont pu prendre part les internautes russes et au cours d'une cérémonie à laquelle participera l'ancien footballeur et double ballon d'or brésilien Ronaldo. Nul ne peut affirmer si ce sera un chat, un loup, un tigre, mais cette mascotte succédera au tabou Bola Fuleko qui avait représenté le Mondial 2014 au Brésil, ainsi qu'au léopard Lazuki, qui est au du Mondial 2010 en Afrique du Sud.
Football européen, Ligue Europa, résultat des matchs d'hier de la troisième journée du groupe A.
Oui, donc Feyenoord s'est imposé face à FC Zorya par 1-0 avec un but signé de Nicolas Jorgensen. De son côté, Manchester a corrigé Fenerbahçe par 4-1 grâce à un doublé de Paul Pogba et deux buts d'Anthony Martial et de Jesse Lingard. L'unique but de Fenerbahçe a été l'œuvre de Robin Van Persie, dont les Red Devils prennent du même coup la tête du groupe A, bien qu'à égalité de points avec Feyenoord, et confirment ainsi le retour en grâce de son entraîneur José Mourinho.
Oui, on parle de la réforme Ligue des champions. Les ligues européennes passent à l'acte et défient l'UEFA.
En tout cas, elles sont très furieuses contre la réforme décidée par l'UEFA qui prévoit que pour la période 2018-2021, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie auraient 4 places garanties en phase de poule de la C1. Craignant une compétition fermée, les ligues européennes ont annoncé qu'elles pourraient organiser des rencontres de championnat en même temps que les compétitions européennes de clubs.
Lucas Kayombo, l'autre match PSG Arsenal.
En fait, Kayombo est un gardien de but de 13 ans qui évolue au FC Solitaire à Paris. De nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain et Arsenal, qui souhaitent recruter de plus en plus de jeunes en France, se disputent ses services. C'est l'une des pépites les plus surveillées de la région parisienne. Déjà élu meilleur gardien de la Paname Cup, puis de la Danone Cup régionale à Lille, Lucas Kayombo est considéré par de nombreux recruteurs comme un phénomène de sa catégorie d'âge.
Enfin, pour terminer, Nanit, fait assez insolite, le match Australie-Thaïlande se jouera sans acclamation pour cause de deuil du roi.
Après avoir envisagé un match à huis clos, à le délocaliser ou à repousser sa date, la Fédération thaïlandaise de football a annoncé que le match va se jouer, mais sans acclamation.
Merci, Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge, Eric Manilakis en votre compagnie, place au dossier du jour.
Au Burkina Faso, le gouvernement affirme avoir déjoué au début du mois une nouvelle tentative de coup d'État. Le ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré, a déclaré dans une conférence de presse que ce putsch avorté a été planifié par d'anciens membres de l'ex-garde prétorienne de Blaise Compaoré, dissoute après l'échec du putsch de septembre 2015. Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou, nous en dit plus.
En partant à la conférence de presse du ministre de la Sécurité, nos intentions étaient d'avoir le bilan sur les récentes attaques au nord Burkina. Finalement, le conférencier a sorti un sujet qui a relégué au second plan celui des attaques, en disant que le Burkina Faso vient d'échapper à un coup d'État. Écoutons le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré.
Le samedi 8 octobre 2016, le poste de gendarmerie de Nazino à Pau a intercepté au cours d'un contrôle de routine 4 individus qui avaient des comportements suspects, mais que les gendarmes ont pris pour des coupeurs de route du fait de nombreux lots d'amulettes et de gris-gris qu'ils transportaient dans leurs sacs. Il ressort que les 4 suspects sont un groupe de militaires de l'ex-RSP dont 3 sont des déserteurs recherchés et qui revenaient d'un pays voisin pour participer à une action d'atteinte à la sûreté de l'État.
Quel était le mode opératoire des putschistes? Voici les explications du ministre Simon Compaoré.
Les objectifs de ce groupe d'environ 30 hommes, composés essentiellement de sous-officiers et de militaires de rang de l'ex-RSP, étaient, premièrement, attaquer la caserne de la gendarmerie à Ouagadougou. Deuxièmement, attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées Maka pour libérer les détenus. Troisièmement, séquestrer certaines autorités. Quatrièmement, s'attaquer à la présidence à Kossiam pour prendre le pouvoir par les armes. L'opération devrait avoir lieu le samedi 8 octobre à minuit. Suite à la mort des 2 hommes du noyau dur du groupe tombé à Pau qui venait en renfort d'un pays voisin, le sieur Koulibaly Gaston, chef des opérations, a décidé de la mise en œuvre du plan B qui consistait à créer une mutinerie dans l'armée.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'Afrique du Sud se retire de la Cour pénale internationale. Cette décision notifiée par écrit à l'ONU devant prendre effet dans un an est liée au refus des autorités sud-africaines d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir lors de son séjour dans leur pays en 2015. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de David Zunmenou Dossou de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
La raison avancée par l'Afrique du Sud, c'est le supposé penchant de la Cour à se concentrer uniquement sur les Africains. Argument qui a été déjà maintes fois battu en brèche par les organisations de la société civile, l'organisation des victimes et surtout par les actes posés par les Africains eux-mêmes, les chefs d'État africains, qui ont référé certains cas, sinon la majorité des cas, au tribunal pénal international. La deuxième explication est beaucoup plus politique. C'est un peu pour se soustraire un peu à la défaillance observée lors du passage du président soudanais Omar al-Bashir, que l'Afrique du Sud n'avait pas voulu arrêter mais que les tribunaux du pays ont jugé contraire aux engagements constitutionnels du pays et surtout au serment du président. C'est un peu comme ça que les Sud-Africains, en tout cas que la majorité des observateurs, voient la décision de l'Afrique du Sud de se retirer, surtout que cela fait suite à la décision du Burundi d'emprunter le même chemin.
Qu'est-ce que les Africains eux-mêmes font pour rendre justice à leur peuple?
Je pense que c'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Et je pense que les statuts de Rome sont clairs à ce propos. Et si les juridictions internes sont à même de rendre justice aux victimes, donc la Cour n'a pratiquement rien à faire. Mais on connaît l'état de leur justice. On connaît le caractère sélectif des décisions de justice. Et surtout, l'absence de justice pour des milliers de victimes, des milliers d'enfants, des milliers de femmes qui sont victimes des exactions commises par des chefs de guerre, par des groupes armés, par des criminels lors des guerres et des violences politiques.
Est-ce que ces revers n'affaiblissent pas la Cour pénale internationale, n'affectent pas sa crédibilité?
Pas vraiment. Je pense que s'il est vrai que les Africains constituent la majorité des partis ayant ratifié la Cour, et qu'un retrait en masse des États africains affaiblirait la Cour. Ce qu'il faut craindre, c'est précisément cela, le retrait en masse. Mais pour le moment, on observe que des cas isolés, le Burundi, on connaît la situation politique qui prévaut dans ce pays, et c'est certainement un paravent que de mettre l'argument de se retirer de la Cour pénale en avant pour simplement se protéger et se soustraire un peu aux critiques internationales sur le non-respect de la constitution du pays et de l'alternance pacifique au pouvoir. Et en Afrique du Sud également, vu les déboires que connaît le pays en matière de justice, surtout de responsabilité à l'interne du pays, et il faut se poser la question de savoir si nous avons en Afrique d'autres candidats qui sont à même d'emboîter les pas à ces deux pays.
David Zunmenu Dossou de l'Institut d'études de sécurité était joint à Pretoria en Afrique du Sud.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Guinée, la rentrée académique est perturbée par un mouvement de protestation. Les responsables d'institutions d'enseignement supérieur privé souhaitent discuter avec le gouvernement de nouvelles mesures. Un reportage de Zakaria Camara à Conakry.
Pas un seul étudiant dans les salles de classe des universités privées de Guinée. C'est une décision de la Chambre représentative de l'enseignement privé. Les négociations sont en cours. Mais certaines réformes engagées cette année par le gouvernement guinéen semblent fâcher les fondateurs d'institutions d'enseignement supérieur privé. Guigui Bamba est chargé de communication de l'Université Kofi Annan de Guinée.
Et l'État a décidé d'envoyer les littéraires seulement, et pas les médecins, pas les techniciens. C'est-à-dire alors que la priorité doit être mise sur la technique. Si je parle des techniciens, c'est des médecins, des ingénieurs. Donc tout ça font partie de ce mouvement-là.
Le mouvement est celui de fermer les salles de classe, le temps de trouver une solution avec le gouvernement. Et l'une des solutions serait le paiement des arriérés de bourse. Ibrahima Souriba, chef service adjoint de la scolarité de l'Université Mercure Internationale.
Nous sommes à la rentrée universitaire. L'État reste de voir encore le deuxième semestre de l'année universitaire 2014-2015. Le deuxième semestre de l'année universitaire 2015-2016 et pire, le contrat des étudiants boursiers de l'année dernière, c'est-à-dire première année 2015-2016, n'a même pas été signé encore. Donc vous voulez qu'on reprenne comment? Comment les fondateurs vont payer les enseignants?
Payer les enseignants n'est pas le seul souci des fondateurs d'universités privées. Le ministère guinéen de l'enseignement supérieur a limité les orientations des étudiants. Une décision qu'Ibrahima Souriba et d'autres responsables d'universités privées ne semblent pas accepter.
Ils ont eu toutes les vacances pour discuter avec les universités privées, pour leur dire, écoutez, ce que nous payons pour les branches d'ingénierie et de médecine reviennent chères à l'État. Revoyons ensemble les coûts pour permettre aux étudiants de fréquenter ces filières-là. On ne peut pas sacrifier toute une promotion.
Si les universités privées ne semblent pas comprendre les nouvelles mesures, le ministre guinéen de l'enseignement supérieur, lui, a trouvé une explication. Yero Balde.
La médecine, la pharmacie, l'odonto, le tourisme, on a dit que cette année, on n'oriente pas dans ces filières pour plusieurs raisons. Parce que ces filières ont besoin d'être restructurées. Il y a beaucoup de problèmes de formation, de qualité de formation. On viendra filière par filière, c'est par étapes. Mais pour le moment, ce sont ces étapes-là parce que c'est très important.
Le ministre guinéen de l'enseignement supérieur a dit vouloir mettre un accent sur la qualité de l'enseignement. Les filières fermées cette année seront réouvertes l'année prochaine après la restructuration, conclut-il au cours d'une conférence de presse. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Présidentielle américaine 2016, en bref répit dans une campagne incroyablement agressive. Donald Trump et Hillary Clinton ont plaisanté hier soir le temps d'un dîner de gala à New York, même si l'animosité entre les deux candidats à la Maison-Blanche restait palpable. La chronique est signée Jacques Aristide.
Assis chacun d'un côté du cardinal de New York, Timothy Dolan, les deux candidats sont montés tour à tour à la tribune lors de ce dîner de la Fondation Alfred Smith, rendez-vous immuable du calendrier politique américain dans le prestigieux Waldorf Astoria au cœur de Manhattan, une soirée pour lever des fonds en faveur des associations caritatives. Le candidat républicain a été copieusement hué lorsqu'il a lancé ses piques les plus agressives envers sa rivale démocrate en la qualifiant de corrompue notamment.
We've learned so much from WikiLeaks. For example,
nous avons appris tellement de WikiLeaks. Par exemple, Hillary croit qu'il est indispensable de berner le peuple en affichant une certaine politique en public et une totalement différente en privé.
Rare moment, il a montré qu'il était capable de rire de lui-même, ou presque. Donald Trump a évoqué l'épisode d'un plagiat terriblement embarrassant pour sa campagne lorsque sa femme Melania a été accusée d'avoir copié un vieux discours de l'épouse du président américain Barack Obama. Plus à l'aise dans l'exercice, même si certaines de ses blagues sont tombées à plat, Hillary Clinton a multiplié les allusions aux critiques dont elle fait l'objet.
C'est un événement tellement spécial que j'ai pu trouver un moment dans mon horaire de sieste rigoureux pour pouvoir être ici. Et vous avez de la chance. D'habitude, je demande beaucoup d'argent pour ce genre de discours.
Une blague en référence aux sommes astronomiques qu'elle a exigées pendant des années. Elle a également profité de l'occasion pour décocher quelques piques à son adversaire. Soulignant l'absence de téléprompteur lors de cette soirée, elle a reconnu que l'exercice pouvait être difficile, surtout quand il faut lire le texte original en russe, dans une allusion à l'admiration débordante de Donald Trump pour le président russe Vladimir Poutine. Une poignée de main, brève et sans effusion, a finalement conclu ce dîner qui fut probablement la dernière apparition commune de l'ancienne secrétaire d'État et de l'homme d'affaires populiste avant l'élection du 8 novembre.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Lionel Runanilagahima a dirigé la mise en onde à la console Nick Ifanov. Présentation, Eric Manirakiza et Nathalie Barge.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Vous êtes maintenant près de 2 millions. On maintient la conversation et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.